Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Laurent Godet, merci de nous faire le plaisir bonsoir. De venir à la rencontre des lecteurs bordelais à la librairie Mola, donc dans cette salle Ozone, la nouvelle salle, troisième salle de la librairie Mola, à l'occasion donc de votre dernier roman, Écoutez nos défaites, 2016, septembre je crois, hein, septembre 2016. Qui fait suite, bien sûr, à une longue série d'ouvrages. Il n'est plus besoin, sans doute, de présenter Laurent Godet, mais malgré tout, l'exercice veut que je le fasse. Donc, vous avez été reconnu dès 2001 avec ce roman déjà très, très sombre et tragique, Cri, hein, sur les poilus de la guerre de 14-18. Et vous avez été surtout reconnu très vite avec le prix des libraires. Et je sais que vous gardez une affection particulière pour les libraires. Et donc, Mola est aussi une librairie indépendante qui fait beaucoup, je pense, pour les lecteurs et pour les livres. Et donc, le prix des libraires donc, pour La mort du roi Songor, c'est ça, en 2002. Enfin, vous avez eu le prix en 2003, mais le livre s'est sorti en 2002, c'est bien ça. Voilà. Et d'ailleurs, ce deuxième roman publié a connu beaucoup d'autres prix, beaucoup d'autres reconnaissances. Et en particulier le Goncourt des lycéens, qui est un prix important, je pense. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors, ça n'empêche qu'en 2004, vous avez eu aussi et surtout le prix Goncourt, qui vraiment a dû changer votre vie et en tout cas vous a donné évidemment la stature d'un grand écrivain français, traduit dans 34 langues et plus, je crois, aujourd'hui. Et donc, après Le soleil d'Escorta, vous avez régulièrement publié de nombreux romans avant celui-ci, donc Écoutez nos défaites, mais pas seulement des romans. Vous avez d'ailleurs commencé, je crois, par le théâtre. Et vous continuez à travailler.
Oui, je continue. J'ai effectivement commencé par là. Au début, je n'écrivais que des pièces. Et ensuite, il y a eu toute une période où je faisais les deux en alternance. J'essaye de continuer à le faire. Le roman a pris un petit peu beaucoup de place dans ma vie. Mais à la rentrée littéraire, là, Écoutez nos défaites est sorti. Et en même temps, est sortie une nouvelle pièce qui s'appelle Danse Morob. Donc, j'essaye de continuer effectivement à écrire pour le théâtre. Ouais.
Voilà. Et vous écrivez énormément. En fait, vous travaillez énormément.
Mais je travaille tout le temps. Je suis content que vous l'ayez remarqué.
Oui.
Je travaille tout le temps.
Il suffit d'entrer dans un de vos livres pour plonger dans un univers extrêmement touffu, extrêmement riche et fascinant. Et alors, avec Écoutez nos défaites, là, cette fascination, je pense, va aller jusqu'au vertige. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, mais en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous allez voir que dès les premières pages, vous êtes happé dans un univers extrêmement complexe qui va de l'Antiquité à l'actualité la plus contemporaine. Et c'est aussi ce qui fait, je pense, l'intérêt et la puissance de ce nouveau roman, parce que vous avez en fait une espèce, comme vous dites, de verticalité de l'histoire. Et l'un des personnages le dit très bien assez vite, d'ailleurs non, pas si vite que ça, à un moment dans le roman. Alors, ce qui va de pair avec la complexité et la richesse du roman, c'est qu'une fois qu'on est dedans, on a beaucoup de mal. C'est comme des nappes qui s'installent à la lecture et après on a beaucoup de mal à retrouver à quel endroit et à quelle page exactement on a telle phrase. Alors j'ai marqué la page. Donc page 79, quand Mariam dit, elle survole le territoire vers le Moyen-Orient, elle dit tout est là, enfin elle dit non, vous lui faites dire, tout est là sous elle. Les campagnes d'Alexandre, la muraille qui assura la Pax Romana, les lignes que Churchill et les Français tracèrent lors de la conférence du Caire, l'avancée de Daesh. Voilà, en une seule phrase, on a ramassé verticalement, puisqu'elle est en avion et qu'elle voit ce qu'il y a sous elle, comme s'il y avait un empilement du temps, un empilement de l'histoire. Et c'est vrai que c'est là, ce qui frappe au premier abord quand on lit ce roman, c'est cet empilement d'époques. Donc on a au moins 4 époques, n'est-ce pas ? Dites-nous un peu comment s'est installé cet empilement de l'histoire dans ce roman.
En fait, effectivement, il y a 4 périodes. La première, Celle par laquelle on entre dans le roman est la période contemporaine. C'est aussi par elle qu'on quittera le livre. Donc c'est un peu la période qui est, on va dire, centrale, dans laquelle on suit le destin et la trajectoire de deux personnages. Le personnage d'Assem, qui est un homme qui travaille depuis au moins une dizaine d'années pour les services secrets français. Et puis un personnage féminin qui s'appelle Mariam, celui dont vous venez de parler, qui est une jeune femme donc née à Bagdad, irakienne, et qui est archéologue. Et donc ces deux personnages se rencontrent au tout début du livre, et je ne dévoile rien en disant cela, dans un hôtel à Zurich. Ils ne se connaissaient pas avant, ils vont passer la nuit ensemble, et ils ne se reverront plus du tout du livre. Sauf que j'avais envie d'essayer de voir justement comment est-ce que, malgré le fait qu'il y a cette absence pendant tout le livre, ils ne sont plus jamais tous les deux en présence l'un de l'autre, et bien pour autant, quelque chose est né lors de cette unique et seule nuit des corps et de l'amour, et qui va prendre de la place, grandir, croître. Et donc, en fait, il ne se revoit plus, mais tout le livre est quand même construit sur une sorte de dialogue qui fait que, pour le dire un peu trivialement, mais il y a quand même une histoire d'amour entre tous les deux, puisque la pensée va de l'un à l'autre. Pour chacun des deux, cette rencontre a changé quelque chose. Et il y a quelque chose qui grandit en eux et qui a à voir avec l'autre. Donc, il y a cette espèce d'axe central où on suit... Ensuite, ce que va devenir Assem et Mariam après cette première nuit à Zurich, chacun retournant à sa vie. Lui, parce qu'on lui attribue une nouvelle mission, et elle, parce qu'elle elle suit l'arrivée de Daesh dans la zone du nord de l'Irak. Et puis, tressé avec tout ça, effectivement, il y a trois autres époques. Donc, je vais passer peut-être un peu plus vite, mais on peut y revenir. Mais juste là, pour en dire deux mots, on est avec... parfois avec Hannibal, et sa marche vers Rome. On est aussi avec le général Grant, qui est un général nordiste lors de la guerre de sécession. Et puis enfin, le roi des rois, Haïlé Sélassié, à la fois lors de sa défaite face à Mussolini, lorsque l'Italie envahit l'Éthiopie, et aussi, on va le suivre longtemps, quand il a l'occasion de revenir... Et de régner. Donc voilà, le livre est construit sur cette alternance permanente des quatre époques, des quatre récits, de front, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord Haïlé Sélassié et puis ensuite Grant. On est tout le temps à sauter de l'un à l'autre. Et ça, c'était l'idée de départ, en fait. Moi, je me suis tout de suite dit, il y aura plusieurs époques, et mon travail et l'enjeu pour moi de l'écriture consistera à essayer de les tresser, de voir si ça peut... construire quelque chose qui, en fait, qui va au-delà de chaque époque. Je dis ça parce que le projet n'a jamais été de faire un roman historique. Moi, j'ai dû engranger beaucoup de matériaux historiques, de me plonger dans toutes ces choses-là que je ne connaissais pas très bien, à dire vrai. Mais je ne me suis jamais dit que le pacte avec le lecteur allait être celui du roman historique. C'est-à-dire que, effectivement, j'essaie d'être un peu précis, de raconter quelque chose du contexte. Mais au fond, si au bout d'un moment... le lecteur est pris non pas par le détail historique, mais par l'espèce de champ qui se crée dans l'alternance, moi, ça me va. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est l'espèce de mouvement qui naît, qui a à voir avec cette verticalité dont vous parlez. Comment est-ce que l'histoire avance? On peut être à la fois dans le passé, le présent, et en même temps, il y a des similitudes. Il y a parfois de grandes différences aussi. Mais voilà, je me promène en charriant tout ça comme une espèce de grand fleuve... qui nous traverse, en fait, parce que le passé est parfois présent dans notre monde, et puis on sait que de toute manière tout ça va nous quitter parce que nous allons quitter le monde, et donc l'idée que tout cela nous traverse est très importante. Vous parliez, je finis juste là-dessus, pour reprendre l'exemple que vous citiez en lisant cette phrase qui est dans le roman. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours bouleversé, cette présence, souvent à travers des sites archéologiques, mais ce n'est pas forcément ça, c'est parfois dans des villes, des différentes strates de l'histoire. J'étais au mois de novembre à Beyrouth, on sent ça à Beyrouth absolument partout, tout le temps, la juxtaposition des différentes couches de l'histoire, ou dans le nord de l'Irak, la zone du Kurdistan. J'y suis allé il y a 2 ans, juste avant que Daesh ne prenne Mossoul. Et c'est vrai que dans la ville d'Erbil, qui est la capitale de la région autonome du Kurdistan, et qui est à 40 km du site historique de Gaugamélès, c'est-à-dire la grande bataille d'Alexandre le Grand face à Darius. Moi, il y a toujours une émotion particulière et une vibration particulière de savoir que ces terres-là sont aussi les grandes terres du passé. Enfin, que j'aime bien ça. Donc, effectivement, j'essaie d'explorer cette sensation de présence du passé dans notre monde.
Voilà, et c'est d'autant plus sensible que justement tout est au présent. Ça aussi, quand on lit le roman, c'est très frappant. Malgré le tressage des périodes qui sont parfois très éloignées entre le XXIe siècle et l'Antiquité, par exemple, on passe d'une ligne à l'autre. Enfin, il y a un alinéa, il y a un blanc, mais d'un paragraphe à l'autre, sur la même page, on peut passer par-dessus des siècles et même des millénaires, et on reste au présent, tout est au présent. Donc ça redonne vie à l'Antiquité, et en même temps, bien sûr, ça nous ramène à elle. Il y a une espèce de souffle, comme vous dites, hein, qui nous emporte, de très grands flux presque épiques qui va nous emporter au fil du roman. Et en même temps, il y a une méditation, parce qu'on se pose forcément la question, mais toutes ces batailles, tous ces morts, tous ces massacres, tous ces bruits terribles que la Terre a entendus, si elle pouvait parler, nous les restituer, on entendrait des bruits assourdissants. On les répète aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire, finalement? C'est quand même une question qui se dégage de ce roman.
Ah oui, c'est une question vertigineuse d'ailleurs, hein, que moi j'avais envie de poser, parce qu'elle est effectivement au cœur dès qu'on commence à se pencher un peu sur l'histoire, c'est une question qui surgit. Je me souviens de mes études très lointaines de grec, où le professeur nous avait fait étudier un passage de Thucydide, et j'utilise ce souvenir-là dans le livre, puisque Mariam le raconte, mais c'est un souvenir en fait personnel. Je me souviens de... Donc Thucydide définit son travail d'historien comme le geste de l'historien est celui qui essaye de créer pour l'humanité à venir, en fait, ce qu'il appelle des acquis pour toujours. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée est très belle, que si on se penche sur l'histoire, si on l'étudie, si on la fixe à travers des écrits, c'est une espèce de patrimoine qui servira aux citoyens à venir pour ne pas refaire les mêmes erreurs, en fait. Donc voilà, cette notion de acquis pour toujours, comme si l'humanité pouvait avancer pas à pas en disant, bon, bah, ça on l'a fait, on ne le fera plus. Et définir le travail de l'historien comme ça, je trouve que c'est très beau. Malheureusement, cette très belle idée est un peu systématiquement mise à mal par le fait que chaque génération recommence. Des plus jamais ça, on en a connu quand même un grand nombre. Et je pense qu'effectivement, à chaque fois qu'ils sont prononcés, c'est avec une totale urgence, honnêteté, et vraiment l'impression qu'on ne refera plus ça. Mais voilà, il y a une longue liste de plus jamais ça qui pose ce problème. Est-ce que effectivement on arrive à se... je ne sais pas comment dire, mais est-ce qu'il y a un sens de l'histoire? Est-ce qu'on arrive à se sauver de catastrophes passées? On ne peut pas répondre à cette question pour une raison simple, à mon avis, c'est qu'on n'aura jamais la phase B. C'est... Peut-être qu'effectivement, on a échappé à des tas de choses qu'on ignore et qui auraient été terribles. Mais ce qu'on sait, c'est que ce qu'on a traversé, c'est quand même à chaque fois un petit peu rude. Donc cette question-là, effectivement, elle est passionnante. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber en disant « Bon, bah, puisque de toute manière, ça ne sert à rien, laissons l'humanité aller à la course folle qu'elle aime visiblement emprunter de temps en temps ». Non, je pense qu'effectivement, chaque homme, chaque génération, chaque société doit avoir à cœur d'essayer de construire ce qui ressemble le plus à un plus jamais ça, tout simplement parce qu'on est doté d'un esprit, d'un sens moral, et qu'on a le droit d'avoir un point de vue sur ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Mais c'est vrai que quand on prend un champ un peu profond, et notamment dans le livre, qu'on court comme ça sur plusieurs siècles de conflits, ça ne rend pas d'un optimisme délirant, quoi.
Oui, d'autant plus que vous choisissez vraiment les périodes les plus violentes, les plus terribles, enfin, des batailles en particulier, des scènes de bataille, de massacres, de guerre. Et vous avez aussi une attention à l'aspect le plus physique, le plus cru, le plus, quand vous dites la guerre pue les viscères et que vous racontez le résultat des batailles, même quand ce sont des victoires, 45 000 morts sur le terrain, ça c'est la victoire de Cannes, je crois, donc d'Hannibal. Avant sa défaite contre Rome, comment se sentir victorieux, enfin, c'est aussi ça qui est très intéressant dans ce roman, c'est cette mise en question de la notion même de victoire et de défaite, du coup.
C'est le point de départ de l'envie d'écrire ce livre, c'est interroger, questionner, faire tourner devant d'abord mes yeux et ensuite l'offrir aussi aux yeux du lecteur, cette notion, ce binôme victoire-défaite. Qu'est-ce que c'est qu'une victoire? Qu'est-ce que c'est qu'une défaite? Quand est-ce qu'on peut dire pleinement et totalement qu'on a gagné? Est-ce qu'on peut le dire d'ailleurs? Et en fait, ça a l'air simple et ça a l'air binaire comme problème. Et en fait, dès qu'on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que c'est une question qui finit par engloutir un peu celui qui se la pose, parce que c'est d'une complexité très grande, en fait. Je vais essayer d'en dire juste deux mots pour que vous compreniez ce que j'essaye de cerner. C'est que, effectivement, dans les livres d'histoire, on apprend souvent que à telle bataille, un tel a gagné et un tel a perdu. Et là, c'est binaire et ça l'est. Donc effectivement, Grant gagne sur le général Lee, ça ne fait pas de doute. Mais là où ça devient compliqué, c'est qu'on sait aussi, avec du recul, que certaines victoires militaires et politiques ont engendré par la suite un deuxième conflit, parfois des dizaines d'années plus tard. Là, je pense à la Première Guerre mondiale, dont on peut quand même légitimement penser qu'elle porte la victoire, entre guillemets, de 18, porte en elle déjà la future guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Donc déjà, la victoire pleine et totale, non. Si derrière, ça doit mener à un deuxième conflit, c'est plus compliqué que ça. Et puis après, il y a d'autres manières aussi de la rendre plus complexe, cette notion de victoire. Si on se met à hauteur d'homme, et c'est ce que vous disiez avec les champs de bataille, si on laisse tomber le regard surplombant historique, mais si on se dit, bon, alors voilà, les hommes qui ont vécu cette bataille-là, qui étaient sur le champ de bataille, est-ce que au terme de cette journée, ils se sentent victorieux? Oui, probablement, ils sont contents d'avoir survécu, de ne pas être celui qui gît à terre. Donc, il doit y avoir un sentiment de victoire, j'imagine. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus un sentiment de survie que de victoire? Déjà, à mon avis, c'est plus mêlé. Et puis ensuite, vu ce qu'ils ont été amenés à faire, je veux dire, découper avec un glaive ou à la lance des gens en face qui sont quasiment les mêmes qu'eux, enfin, même âge, même, et dont on sait que finalement, la vie, ça se joue dans ces moments-là sur un fil, le hasard, la chance. Je pense que la notion de victoire, elle est extrêmement fragile. Et je reviens au général Grant qui a donné des ordres à ces hommes dont il sait qu'ils vont engendrer des dizaines de milliers de morts quand il décide que telle armée va monter au nord et intercepter telle colonne de Lee. Il sait que ça se soldera par 5 000, 10 000 morts. Est-ce qu'il peut sciemment, totalement se dire « Ah, je suis content, j'ai gagné » ? Je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, quand il parcourt lui-même le champ de bataille, même si c'est une victoire, même s'il est probablement content, et peut-être a-t-il raison de l'être, d'avoir gagné, il y a quand même un moment où ils sont tout simplement sur un champ de bataille où il y a des gens qui finissent de se vider de leur sang. Et ça, ce n'est pas joyeux, ça, c'est terrible. Donc, pareil pour Hannibal, l'exemple que vous citez est un exemple saisissant. Cette bataille-là, qui s'appelle Cannes, mais qui n'est pas la ville de Cannes qui est en France, qui est une ville qui est dans les Pouilles, le sud de l'Italie, Cannes de la Battaglia, ça s'appelle maintenant, c'est 40 000 morts romains. C'est un tour de force militaire qui est encore appris aujourd'hui dans les écoles académiques militaires, parce qu'Hannibal était en sous-nombre, il était donné perdant, il y avait deux Romains pour un Carthaginois, il devait perdre cette bataille. Il arrive par ce qu'on peut appeler du génie militaire à inverser le cours des choses et à infliger aux Romains une défaite absolument historique, cuisante et énorme. Donc c'est une victoire fracassante. Mais en même temps, Mais en même temps, voilà, ça commence, c'est une journée du mois d'août, ça commence, je ne sais pas à quelle heure précisément, mais ça se termine dans la journée. Donc au bout de 5-6 heures de combat, il y a 40 000 corps sur une colline. Je ne peux pas imaginer qu'Hannibal parcourt cette colline en se disant « chouette, j'ai gagné ». Je ne peux pas l'imaginer. Ce n'est pas pour le rendre plus humain, c'est simplement que je pense que c'est forcément extrêmement mêlé. Et là, on est dans des zones qui, moi, m'intéressent, parce que tout d'un coup, se reposer la question de la victoire, ça devient intéressant. Qu'est-ce que c'est que de gagner ? Si on rajoute à ça une dernière couche qui m'intéresse beaucoup dans le livre aussi, et qui est la question du temps, parce qu'aucun de mes trois hommes de guerre, que ce soit Hannibal, Grant ou Haïlé Sélassié, ne meurt sur le champ de bataille. J'ai choisi exprès des personnages dont la vie ne s'arrêtait pas au moment où ils sont pris dans la guerre. Ils vont vivre et ils vont vivre très longtemps après, au moins 20 ans pour chacun d'entre eux. Donc il y a aussi ce temps qui passe, qui patine peut-être un petit peu les choses, qui les invite à se poser la question aussi 20 ans plus tard de revisiter peut-être cette période-là, de constater que bah, finalement, c'était le grand moment de leur existence. Parce que Grant, il est connu quand même avant tout pour avoir été le général du Nord. Donc là aussi, je ne sais pas. Et puis en même temps, ce sont des corps vieillissants, des hommes qui savent qu'ils vont bientôt mourir. La notion de victoire, elle doit être quand même complexe. Et ça, ça m'intéressait. Je finis juste pour vous dire que parce que là, je parle énormément de la chose militaire et le livre s'en empare beaucoup. Mais cette notion de défaite, qui est l'envie initiale du livre, j'avais envie de parler de ça. Je n'avais pas envie d'en parler d'un point de vue uniquement militaire, parce que moi, je suis à la tête d'aucune armée et j'adore l'épopée militaire et tout ça, ça m'intéresse bien. Et puis ça colle à l'écriture que j'ai envie de pratiquer, une écriture épique. Mais à un moment donné, il faut aussi que je puisse m'approprier un peu plus les thèmes dont je vais parler. Et ce thème de la défaite, j'avais aussi envie de l'explorer parce que tout simplement, c'est un thème qui m'intéresse, qui résonne en moi. Et je pense et j'espère qu'il résonne en chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on peut aussi quitter le champ du militaire, et le livre essaye aussi de faire ça, pour explorer cette notion de défaite d'un point de vue de la vie. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment qui est en nous, qui grandit au fur et à mesure que la vie avance, qu'on a à voir avec la défaite. Et je dis défaite, je ne dis pas échec, qui pour moi est une autre chose. L'échec donne à entendre qu'on aurait démérité, qu'on a raté quelque chose. Je pense qu'on peut très bien réussir parfaitement sa vie, au sens où on le dit, c'est toujours un peu bête, mais enfin, en tout cas, avancer dans la vie sans avoir démérité et pour autant avoir rendez-vous avec la défaite, tout simplement parce que, on le sait, il y aura pour chacun d'entre nous un temps où il y a peut-être un peu plus de fatigue, où l'élan est moins puissant, où il faut s'habituer à l'idée de la perte, perte de ceux qui nous entouraient, de ceux qui nous précédaient déjà. Donc, j'entre dans des zones qui sont plus proches de moi parce qu'elles me permettent d'interroger ce sentiment que je ressens, que je pense que vous ressentez aussi, qui n'est pas, je tiens à le dire, forcément accablant. Et le propos n'est pas de dire passer 40 ans, ça ne vaut plus la peine de vie parce qu'on va forcément rencontrer la défaite. C'est pas ça, c'est simplement de dire voilà, l'arc de la vie est fait de différentes phases. Il y a un premier arc qui est probablement celui de l'apprentissage, de la découverte, de la construction. Et puis, il y a un moment donné où il y a aussi, je pense, le temps de la défaite. Mais ce temps-là, on peut, on doit, il faut l'envisager aussi comme un temps à vivre et à vivre pleinement, librement, à sa manière, à soi. C'est ce qu'essayent de faire mes personnages. C'est-à-dire qu'ils sont au moment où ils comprennent que c'est ça qui vient et ils veulent s'en emparer pour pas le vivre de manière accablée et passive, mais décidée, volontaire. Ça peut être aussi un moment où on décide de cesser de faire certaines choses parce qu'elles ont moins de sens. C'est ce que fait Assem. Il a vécu dans l'obéissance pendant longtemps. C'était le principe de sa vie. Et je pense qu'on sent dans le livre que, puisqu'il sait que la défaite est là, il va aussi se débarrasser peut-être de l'obéissance pour vivre plus librement, de manière plus volontaire. Moi, j'aime bien cette idée-là aussi, que ça nous amène peut-être vers ce que raconte au fond, ce que racontait déjà le stoïcisme, et même l'épicurisme, cette notion que la fin est là, on le sait, et donc il faut s'organiser en fonction.
Oui, et il y a des échecs Et il y a des réussites, mais il y a aussi des choses invincibles, et donc il n'y a pas toujours victoire. Et il faut s'habituer à cette idée de défaite, effectivement. Et je pense qu'à ce moment-là, le roman dépasse complètement un enjeu historique pour parler à chaque lecteur et de choses qui touchent chacun, qui toucheront ou qui ont touché chacun et chacune, y compris par le corps, parce que le corps aussi occupe une présence, enfin, occupe une place très présente dans le roman. Le corps amoureux, donc dès les premières pages, dont on se souvient, enfin, qui marque les pensées, puisque comme vous l'avez dit, Mariam et Hassem pensent l'un à l'autre. Il y a une espèce de presque de télépathie. Enfin, même si ça, il n'y a pas d'échange de pensées, mais en tout cas, ils ont chacun de leur côté des pensées très fortes pour l'autre, et ça les change. Et ça correspond aussi peut-être à un moment dans la vie de chacun où cette rencontre était bienvenue, enfin, et presque attendue. Et les corps aussi malades, ou les corps mourants dans la bataille, mais malades aussi pour Mariam à un moment. Et à chaque fois, eh bien, se pose justement la question de l'échec ou de la défaite. Est-ce que ce défi va pouvoir être surmonté, ou bien est-ce qu'il va falloir faire avec ? Et ça, c'est très profond aussi.
Mais moi j'ai effectivement, vous l'avez dit en parlant du fait que à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau personnage, on est au présent, ça participe de cette chose-là. J'ai toujours envie d'écrire, moi, à hauteur d'homme. C'est-à-dire, je suis assez rarement dans le regard... surplombant, j'aime bien me mettre vraiment dans la scène comme si j'étais juste derrière le personnage. Et donc, en étant juste derrière, je suis avec des corps. Les corps sont très importants, ce qu'ils ressentent, les sensations. J'écris beaucoup avec ça, en fait, plus qu'avec la voix. J'aime beaucoup essayer... mais ça vient probablement du fait que j'ai commencé par le théâtre. J'aime beaucoup faire parler mes personnages, qu'est-ce qu'ils disent d'eux-mêmes, mais aussi leur corps. Et mon écriture, je pense, est assez sensorielle, en fait. Et puis là, sur un thème comme ça, c'est vrai que ça s'y prête, parce que, effectivement, le corps est là dans tous ces moments-là. Il est là dans la volupté amoureuse du début, la jouissance du corps. Je voulais que le livre commence là-dessus, parce que je pense que face à la brutalité du monde qui entoure Hassem et Mariam, puisque c'est leur vie d'être plongé dans ce chaos-là. Hassem, c'est un agent, il passe son temps à aller en Afghanistan, en Libye, en Irak. Il sait ce que c'est que le monde et ses convulsions. Donc face à ça, finalement, le plaisir, au sens vraiment le plus beau, le plus noble du terme, le plaisir du corps, c'est quand même pas rien. C'est des moments de répit, c'est des moments d'échange, c'est des moments de jouissance, et c'est des moments donc où peut-être la vie a une saveur et une couleur qu'elle n'a pas quand on est plongé dans la course. Donc je voulais que ça commence comme ça. Et puis aussi parce que qui dit plaisir du corps dit il y a un don dans ces moments-là. On donne quelque chose à l'autre. Il y a un échange. Donc il fallait que ça commence par un acte comme ça qui est celui, au fond, d'une certaine bienveillance.
Et il est d'autant plus marquant que, justement, il y a cette fameuse citation du poète « Corps, souviens-toi ». Et qu'effectivement, pendant tout le livre, les deux personnages se souviennent de cette étreinte et de l'amour qui était contenu. Et qui peut-être, enfin, je ne sais pas si vous avez voulu la fin ouverte ou si ce n'est pas le cas. Mais...
Pour la toute fin ?
Oui.
Au niveau de quoi ? De savoir s'ils se retrouvent ?
Oui,
par exemple. Ah, ça, je ne sais pas, moi. Je m'arrête avant. Moi, voilà, je pense qu'ils vont se retrouver, mais après le livre. Mais
c'est voilà. Je voulais préciser que ça reste quand même ouvert. Voilà. Et alors, bien sûr, le poète Virgile disait « Armao irumque cano », pour commencer l'Énéide, je chante les batailles et le héros. Et là, les batailles, on les a, mais le héros, lui aussi, est fragilisé. Il est mis en question. Peut-être que le vrai héros, moi j'en ai trouvé un quand même dans le livre, c'est ce vieux conservateur, vous le connaissez, celui qui a essayé de sauver Palmyre jusqu'au bout.
Ah oui. Je ne sais pas si c'est le seul du livre, mais
c'en est un vrai.
C'en est un vrai, absolument.
Voilà. Oui. Et c'en est un vrai dans la défaite, justement.
Oui. Donc, juste pour resituer pour les gens qui n'auraient pas... Le livre évoque un certain nombre de choses. En fait, à travers Mariam, Mariam est un personnage qui me permet plus que les autres, je pense, de parler aussi du monde très, très actuel, très contemporain. Il est question de l'attentat du musée du Bardo, il est question de l'avancée de Daesh sur Palmyre. Moi, j'avais très envie que ces choses-là soient présentes dans le livre parce qu'il se trouve que ben, je connais le musée du Bardo, j'y suis allé, j'ai eu la chance il y a 15-20 ans d'aller à Palmyre, à Alep, à Damas. Donc, c'est des lieux que j'ai parcourus. L'actualité brutale m'a, comme à vous tous, mais je dis pas ça, c'est pas parce que j'y suis allé que je suis plus concerné. Mais c'est vrai qu'il y a une grande mélancolie à savoir que ces endroits ont été détruits. Et j'avais envie que ça fasse partie du livre. Donc juste pour finir le petit point et vous rafraîchir la mémoire, il y a eu effectivement ce personnage qui s'appelle Khaled el-Assad, qui était surnommé Monsieur Palmyre, qui était un homme âgé, je crois, à peu près 80 ans, qui était le grand spécialiste de la cité de Tadmor, de Palmyre, et qui a vu arriver Daesh, puisque Daesh n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a d'abord eu la prise de Mossoul, la destruction du site de Hatra, de Nimroud, et puis la progression. Donc on savait que Palmyre était évidemment menacé et que probablement s'ils arrivaient à Palmyre, ils feraient tout sauter ou en tout cas ils pilleraient les choses. Et Khaled el-Assad a décidé de rester sur place, d'abord avec son fils, et donc il s'est fait prendre probablement torturé longtemps parce que ces ignorants et ces barbares avaient dans la tête qu'il y avait un trésor à Palmyre et voulaient savoir où il était. Je ne sais pas si pour eux c'était un trésor au sens propre du terme ou si c'était certains objets. Je pense que c'est leur prêter trop de culture. Mais voilà, donc Khaled el-Assad a été longtemps torturé et puis décapité. Et son corps a été exhibé à l'aide d'une grue sur le site de Palmyre. Cette chose-là qui nous ramène à une barbarie qu'on pensait éteinte depuis longtemps, dessine aussi un homme absolument héroïque, effectivement, puisque on a tous les éléments du héros. Il sait ce vers quoi il y va quand même. Alors, en même temps, c'est un acte qui ne se résume pas non plus à une défaite pour moi, parce que je pense qu'il a aussi gagné le fait de tenir, le fait de rester, le fait d'y rester jusqu'à la mort. C'est aussi une manière d'affirmer qu'il n'y a pas de recul possible face à eux. Et en ce sens-là, moi, je dirais volontiers qu'il a gagné, effectivement, à un prix terrifiant. Mais c'est pour ça que je m'autorise cette comparaison en parlant de lui avec Priam. Je lui fais dire cette chose-là, mais qu'est-ce qu'on dirait de Priam si, au dernier moment, il quittait la ville de Troie ? C'est pas possible. Priam doit rester à Troie, même si ça veut dire mourir. Et donc, je pense qu'il a fait quelque chose comme ça. C'était un très vieux monsieur. Il a dû se dire que ça n'avait aucun sens de fuir, que toute sa vie était là et qu'il allait rester avec les vieilles pierres auxquelles il avait consacré toute son existence. C'est admirable.
Oui, et il a aussi sauvé jusqu'au dernier moment un maximum d'objets.
Bien sûr, oui.
Et alors, puisque vous parlez justement de Priam et de la guerre de Troie, il y a aussi un très beau passage qui montre à quel prix la victoire s'acquiert et finalement n'est plus une victoire. Et c'est justement la guerre de Troie elle-même dont vous parlez vers le début du livre. C'est à la page 42. Tout le monde connaît la guerre de Troie, mais c'est à croire que personne n'y a réfléchi vraiment. Que nous dit le mythe ? Et alors là, c'est l'oncle du personnage qui raconte donc ce mythe de la guerre de Troie, et en particulier le sacrifice d'Iphigénie, parce qu'on ne pouvait pas partir à la guerre de Troie, il n'y avait pas de vent. Et donc pour faire lever le vent, il fallait plaire aux dieux, et pour plaire aux dieux, il fallait sacrifier Iphigénie,
d'Agamemnon.
D'Agamemnon, merci. Un trou de mémoire. Et donc, là, on voit bien que d'emblée, Agamemnon avait perdu. C'est ce qui est écrit à la page suivante. D'emblée, Agamemnon avait perdu. Voilà. Donc, pourtant, il va vers la victoire, mais cette victoire est vidée de son sens avant même d'avoir
été. Oui, c'est ce que l'oncle dit à Assem quand Assem est jeune, la veille de sa première mission en tant qu'agent secret. Il lui pose cette question, es-tu prêt à partir ? Et comme l'autre répond au début en pensant, bah oui, j'ai fait mon sac, je suis prêt, il lui repose la question et il lui parle du coup d'Agamemnon et du sacrifice d'Iphigénie pour lui faire entendre que tout départ vers la guerre, puisque c'est ce que Assem va faire, est forcément un départ vers la défaite et qu'il faut l'accepter au démarrage. Il n'y a pas de retour plein glorieux, c'est pas possible. Et en ce sens-là, je fais dire effectivement au vieil oncle, mais parce que je crois que le mythe de la guerre de Troie nous raconte ça aussi. C'est à partir du moment où Agamemnon a dû sacrifier sa fille avant même de mettre le pied sur le bateau, je pense que c'est une invitation à nous montrer que oui, il sera forcément déjà entamé par la défaite, même s'il arrive à raser intégralement Troie, qu'il revient avec des trésors, qu'il tue tous ses ennemis, il aura perdu sa fille. C'est quand même. Donc, oui. moi j'y crois. Enfin, je le vois comme ça, en tout cas.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un troisième personnage, parce qu'on a parlé du couple contemporain Assem-Mariam, mais on n'a pas parlé du troisième personnage qui joue un rôle fondamental aussi dans la bascule des personnages, enfin d'Assem, mais aussi de son interlocuteur, Job.
Oui, alors effectivement, quand les deux personnages se quittent après cette première nuit d'amour, je vous l'ai dit, chacun retourne à sa vie. Et à Sem, on lui attribue une nouvelle mission. Donc, je vais essayer d'être bref et clair. Les services, la CIA, pour le dire, ça fait très roman d'espionnage.
C'est un roman d'espionnage.
Le roman n'est pas vraiment fait de cette facture-là, mais enfin, je n'ai pas d'autre mot. Disons qu'il y a quelqu'un des services américains, ça fait plus flou, est très inquiet parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu un de leurs hommes qui n'était pas un agent secret, qui était un homme des commandos d'élite américaine. Un de ceux qui... alors là aussi, vous en souvenez peut-être.
American Sniper.
Oui, voilà, il y a eu un film, Clint Eastwood a fait un film aussi sur ça. Enfin, pas sur lui, mais... Oui. Bref, ce personnage de Sullivan Sicko faisait partie des forces d'élite américaines et a participé à l'élimination de Ben Laden. Il y a deux hélicoptères qui sont partis pour aller à Abbottabad. Il était dans un des deux hélicoptères. Et donc, c'est un homme couvert de médailles, un homme d'action pure. Et en fait, après cet épisode de l'exécution de Ben Laden, il a visiblement dévissé. Il est un peu... il a disparu des radars. Et les Américains savent qu'il est à Beyrouth. Il s'est entouré d'une drôle de petite communauté, là, un peu terroriste, un peu altermondialiste. On ne sait pas très bien ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Il y a des Palestiniens, il y a des Sud-Américains. Ils vendent des armes, ils font du trafic d'objets d'art. Ils sont à Beyrouth, bon. Et les Américains, en fait, demandent aux Français d'envoyer quelqu'un, et ce sera Assem, le personnage principal, à Beyrouth pour venir flairer d'un peu plus près ce Sullivan Sicko qui se fait appeler Job, pour savoir s'il est devenu complètement fou et dangereux, et auquel cas ils songeront fortement à l'éliminer, ou s'il est récupérable. Et donc ça, c'est la mission à laquelle va se consacrer Assem pendant tout le roman. C'est une mission pour lui extrêmement nouvelle et dérangeante qui l'emmène dans une zone d'inconfort, parce que jusqu'à présent, il était Assem, ce qu'on appelle, parce que ça existe, un tueur de la République, c'est-à-dire un homme qui est chargé d'éliminer les ennemis de la République française. Il n'a jamais été question pour lui de faire appel à son jugement personnel. Or, cette mission est à cela de nouveau, qu'on lui demande de rencontrer Job, de discuter avec lui et d'apprécier si oui ou non, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire de ce type-là. Donc, il le fait. Donc, ça l'emmène d'abord à Beyrouth, puis à Addis Abeba, puis enfin à Tripoli, puisque les personnages ont trois rendez-vous comme ça dans le livre, et qui seront l'occasion de conversations entre lui et Job. Et Job, je ne vais pas en dire trop, mais Job est un personnage qui, en fait, est très proche de Assem. En gros, ils ont un peu la même vie. Ce sont des hommes d'action qui sont dévoués au service de leur pays, avec la même formation de militaire, et qui ont atteint aussi le même point, peut-être, de rupture par rapport à ça, de fatigue, en tout cas, et une certaine clairvoyance, à la différence près que Job est plus fou, Job est passé complètement de l'autre côté. Mais moi, ça m'intéressait parce que du coup, il a une grande liberté de parole. Il est affranchi de beaucoup de choses. Et donc, il renvoie à Assem des questions que Assem était peut-être sur le point de se poser, mais n'avait pas encore formulées, et que Job, lui, a formulées depuis bien longtemps et lui pose de manière parfois un peu brutale et dérangeante.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait fascinant, ces trois rencontres. Hein. Et on sent en plus qu'elles sont attendues. Enfin, Assem cherche Job presque au fil du roman. C'est plus tellement pour remplir sa mission, mais c'est pour avoir des réponses à ses propres questions, ou en tout cas avoir ces conversations qui sont absolument décisives pour lui.
Oui, parce qu'au bout d'un moment, il sent que c'est un frère au sens... Il sait, lui, ce que Assem a vécu, ce qu'il traverse. Ils se sont probablement posé les mêmes questions, ont eu les mêmes vertiges, les mêmes peurs, les mêmes doutes. Donc parler avec cet homme-là est important parce que c'est un vrai moment de questionnement sur le sens de ce qu'ils font. Il y a un lien qui se crée. Et puis, c'est un grand clin d'œil...
À la Bible.
À la Bible, oui, parce qu'il s'appelle Job, mais non, plus au cœur des ténèbres de Conrad. Oui. Je n'ai pas été chercher très loin, c'est vraiment plus qu'un clin d'œil, c'est une citation. C'est vrai que j'aime beaucoup Conrad en général, et le personnage de Kurtz au cœur des ténèbres, qui, vous savez, dans le film Apocalypse Now, est joué par Marlon Brando, cette espèce de personnage qui vit dans la jungle entouré d'une petite société d'hommes armés et qui est fou, complètement fou, c'est un peu le même principe. C'est profiter de la folie d'un personnage pour venir interroger aussi le point d'existence dans lequel on est.
Est-ce que vous pourriez nous lire un passage que vous auriez choisi et que vous auriez plaisir à nous lire ? Parce que nous avons beaucoup parlé des personnages, de l'histoire, du contexte, mais avant tout, c'est l'écriture de Laurent Godet qui va nous charmer.
Je vais vous lire un passage qui concerne Assem. Il est arrivé à Beyrouth. Il n'a pas encore vu Job. Et qu'est-ce que je dois vous dire pour que vous compreniez rien ? Il est... Ben rien, on va voir si ça tient comme ça. Voilà. Il a commandé un café blanc. Il s'est assis à la terrasse de la petite guinguette qui est juste en face du musée. Il observe chaque passant, chaque voiture qui surgit. Il a écouté la conversation de la table d'à côté, entre les deux hommes un peu âgés, jusqu'à ce qu'il se lève, salue le patron et s'en aille. Il essaie de profiter de ces instants parce qu'il sait que ce sont les derniers instants calmes qu'il va connaître avant longtemps. Mais son corps est déjà tendu. Il se récite à lui-même des vers de Mahmoud Darwish, pour repousser le moment où il sera à nouveau un professionnel des services français, un agent à qui l'on confie depuis 10 ans des missions d'élimination ici, au Moyen-Orient ou dans le Sahel. Mourras-tu à Beyrouth ? Mais il ne se souvient plus de la suite. Son esprit est trop attiré par les passants. Il sent la tension monter en lui. Il cherche encore dans sa mémoire Beyrouth, la nuit, pas de nuit dense, pas de nuit plus dense que celle-ci. Et il se souvient de Mahmoud Darwish qu'il était allé voir une fois lors d'un passage à Paris du poète palestinien à l'hôtel Madison devant l'église Saint-Germain-des-Prés. Il l'avait trouvé au bar, seul. Il devait être 11 heures. Il s'était présenté, avait hésité. Fallait-il inventer une identité, dire qu'il était libraire, professeur ou autre chose ? Il se souvient encore de cela, les secondes où il s'était approché. Le regard de cet homme sur lui, et alors il avait su qu'il ne mentirait pas. Il avait tendu la main en disant « Monsieur Darwish, je travaille pour les services français, mais je voudrais savoir si vous accepteriez de parler poésie un court instant avec moi. » Et l'homme n'avait pas frémi, ni même paru surpris. Il avait montré de la main le fauteuil en face de lui, Assem s'était assis et ils avaient parlé. « Si cet automne est le dernier, demandons pardon » pour le sac et le ressac de la mer. Ils avaient parlé sans que Darwish ne lui demande rien sur ce qu'il était. Juste, au moment de se quitter, lorsqu'ils se serraient la main, cette phrase que le poète palestinien lui avait dite, les yeux plantés dans les siens. « Ne laissez pas le monde vous voler les mots. » Il le revoit là avec ce visage de pierre, et c'est la première fois qu'il y repense. C'était des années plus tôt. Et il doit bien avouer qu'il a laissé le monde lui voler les mots. Il n'a été question que de gestes. L'action, qui s'empare de tout, ne laisse plus de place à rien. L'action, avec son ivresse et son intensité, qui rend tout si fade en comparaison. À quoi avait-il servi ?
les mots, dans cette foule sur la route entre Sirte et Misrata, tandis qu'il serrait son 9 mm, prêt à tirer si la situation devenait incontrôlable, et le visage de Kadhafi, là, à quelques mètres de lui, apparaissant et disparaissant au gré des mouvements de la foule. À quoi avait-il servi, alors que personne n'entendait plus que les cris, les tirs, la joie sauvage de la foule? Plus personne n'était en état ni de les prononcer, ni de les écouter, et Kadhafi ressemblait à un boxeur au sol ou à une femme battue. Seuls s'entendaient les cris de la foule qui se bousculait et les tirs de Kalachnikov en l'air pour fêter la prise du dictateur. Il sent qu'il va les perdre à nouveau, les mots. Dans quelques minutes, quelqu'un va surgir, armé sûrement, et l'emmener jusqu'à l'endroit où se cache Job. Le danger est là. Il doit se tenir sur ses gardes. Ils peuvent décider de l'abattre à cette terrasse, pour dire à la France qu'ils ne veulent pas d'elle, qu'ils ont très bien compris que ce sont les services américains qui l'envoient, ou parce que Job est fou, simplement, et veut tout brûler autour de lui. Il doit être vigilant et nerveux. Les mots n'ont plus leur place, et pourtant il s'accroche, ne veut pas les laisser partir. Il sait qu'il est plus lui-même lorsqu'il les porte en lui, ou en tout cas, qu'il est plus proche de la vérité du monde. Il voit encore le visage de Darwish, se souvient de ce vers « Ma patrie, une valise » et surgit alors dans son esprit qui se superpose à celui du poète le visage de la jeune combattante kurde, Chavine, lorsqu'il l'avait vue la première fois devant l'entrée du camp de Kavergosk où il était passé la prendre en pick-up. Chavine, une du groupe qu'il devait former, qui lui avait répondu « Pour eux » en montrant les tentes de réfugiés lorsqu'il lui avait demandé pour qui elle se battait. Et alors il avait envié cette force. Pour qui se battait-il, lui? Pour les intérêts de la France? Oui, mais ses intérêts changeaient si souvent. Il avait été chargé de la protection de Kadhafi avant de se retrouver sur la route de Sirte, du côté de la foule qui hurlait son plaisir sauvage d'avoir enfin le tyran entre les mains. Chavine, elle, n'hésitait pas. Elle avait le visage de la victoire. Il s'était dit cela, qu'il l'enviait, parce que même si elle ne parvenait pas à endiguer l'avancée de Daesh, même si elle tombait un jour sous les balles ennemies, elle ne pouvait pas perdre. Quelque chose en elle ne serait jamais sali, jamais vaincu. Elle se battait pour les familles dans les tentes qui se serrent la nuit, dans une buée de chaleur humaine et une odeur de charbon de bois. Tandis que lui, quand pouvait-il dire qu'il avait gagné? Il avait accompli des missions avec succès. Des hommes avaient été éliminés, mais avait-il gagné? Les mots l'ont quitté. Chaque fois qu'il a dû plonger dans l'action, la poésie s'est tue et Darwish le regarde du fond de son souvenir dans l'hôtel Madison et il sent qu'à nouveau il doit accepter de les laisser partir, les mots, car une voiture vient de débouler. Elle s'est garée sèchement devant lui. Un homme en est sorti sans cacher le pistolet automatique qu'il tient à la main. Il regarde à droite, à gauche, ouvre la portière arrière et lui fait signe de monter.
Merci beaucoup. Vous avez là un avant-goût de vos moments de lecture avec ce roman. Il nous reste à remercier infiniment Laurent Godet
merci
pour
à
cette
vous,
rencontre merci à vous. Et à souhaiter à tout le monde de passionnantes lectures. Merci beaucoup. Merci.